Radio Okapi.
Mal, le journal à la présentation Noël Alouzidou Kabambi.
Le président américain voudrait imposer une interdiction de voyage dans son pays à tout ressortissant de la RDC. C'est un non-sens, se révolte le député national Nyéné Mossé Ngouma. L'élu des Guémena se demande comment Donald Trump peut pour prendre une telle décision contre un État qui est en pleine négociation d'un accord minier avec son pays. Il demande alors au gouvernement congolais d'annuler immédiatement cet accord minier. Reddition d'un des leaders de la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, Franck Mugisa Ndaoura, qui dirigeait ses troupes lors des affrontements contre les FRDC sur les littorales du lac Albert, s'est rendu au FRDC le week-end dernier à Bounia en Ituri. Le président du mouvement citoyen éclairé, MCE, Hugues Boholé-Ndombo, est l'invité de ce journal pour parler de la campagne dénommée Campus Tour, menée depuis plusieurs mois à l'intention des étudiants. Une campagne pour un changement des mentalités et pour l'éveil patriotique. Bonjour à tous. Donald Trump envisage d'imposer une interdiction de voyage aux États-Unis d'Amérique à tout ressortissant de la RDC, alors que le pays est en pleine négociation d'un accord minier avec les États-Unis. Le député national Nyenemo Sanguma dénonce ce qu'il qualifie de manque de considération et invite le gouvernement congolais à annuler immédiatement cet accord minier avec les Américains si cette mesure discriminatoire contre les Congolais est mise en œuvre. Dans une déclaration à la presse hier au Palais du Peuple, l'élu des Guémena se demande comment pouvons-nous bénéficier d'un partenariat avec un pays qui considère ses partenaires comme des personnes non grata. Nyéné Mossé Ngouma est au micro de Michel Kifindangoy.
Alors que nous sommes en pleine négociation d'un accord minier avec les États-Unis, le président Donald Trump envisage d'imposer une interdiction de voyage à notre pays. Si cette décision est mise en œuvre, le gouvernement congolais doit immédiatement se retirer de l'accord. Nous ne pouvons pas accepter un partenariat qui exclut ou méprise notre peuple. Le Rwanda, qui participe également à cet accord, n'est pas concerné par cette interdiction. Pourquoi la RDC devrait-elle continuer à négocier dans des conditions aussi inéquitables? Il ne s'agit pas seulement des ressources naturelles, mais de dignité, de souveraineté et de respect mutuel. Nous devons être prêts à nous retirer de tout accord qui ne sert pas les intérêts du peuple congolais. Aucun partenariat ne mérite d'être signé si nos citoyens sont traités comme des indésirables. Le Congo a le droit d'exiger le respect sur la scène internationale, surtout lorsque ce sont ses ressources qui sont au cœur des discussions.
Au Nord Kivu, un atelier de formation à la lutte contre le financement du terrorisme s'est ouvert hier dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province. Organisé par la section d'appui à la justice de la MONUSCO, cet atelier de 11 jours vise à renforcer les compétences des 10 magistrats, inspecteurs de police judiciaire et agents de services de sécurité pour identifier, enquêter et poursuivre efficacement les circuits de financement du terrorisme. À l'ouverture, Ghislain Tour, coordonnateur de la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Beni et représentant du chef du sous-bureau, a souligné l'importance de cette formation dans une région marquée par les actions des rebelles des ADF. Ses propos ont été recueillis par Martial Papimukeba.
Le financement du terrorisme est devenu une menace transnationale insidieuse, facilitée par des outils technologiques modernes, des plateformes numériques et des circuits informels échappant au contrôle traditionnel. Dans ce contexte, la réponse judiciaire se doit d'être résolue, structurée et résolument tournée vers l'efficacité. Il ne suffit plus de réprimer les actes terroristes. Il est impératif de démanteler les mécanismes de financement qui les rendent possibles. Cela exige de notre part une compréhension fine des flux financiers suspects, une capacité à collaborer avec des institutions nationales et internationales et une vigilance constante face à l'évolution des méthodes de contournement utilisées par les réseaux terroristes. C'est dans cette optique que s'inscrit cette formation, dans le respect des droits et standards internationaux.
En Ituri, un des leaders de la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, s'est rendu aux forces armées de la RDC le week-end dernier à Bunyan. Franck Mugi Sandaura a été présenté hier mardi aux autorités provinciales. Il dirigeait ses troupes lors des affrontements contre les FRDC sur les littorales du lac Albert. Il dit avoir répondu à l'appel du chef de l'État de contribuer à la restauration de la paix dans cette province. L'armée salue ce geste et demande à d'autres miliciens de suivre son exemple. Martial Kizabia Mungu.
Dans ses déclarations, le chef milicien Plikoli, sous le nom de Guer Arali, dit être conscient des souffrances de la population à perpétuel déplacement à cause de l'insécurité des groupes armés, dont celui auquel il appartient, la Convention pour la Révolution Populaire CRP. Il dit, je cite, « Si je me trouve aujourd'hui à Bunia, c'est pour rejoindre à l'appel du chef de l'État aux Ituriens d'œuvrer pour la paix. Quand j'étais en exil en Ouganda, j'avais suivi la démarche du gouvernement militaire, le général Luboya demanda aux exilés de retourner au pays. Mon message à tous les jeunes, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a rien dans la brousse. Vous allez mourir et laisser vos femmes de veuves. Les porte-parole militaires à l'Ituri précisent qu'une dizaine d'autres miliciens de la CRP se sont déjà rendus au FRDC. Le lieutenant Jules Ngongo.
À la suite également de la pression militaire que nous exerçons contre ces miliciens au littoral du lac Albert, les autres voient qu'ils ne peuvent pas tenir devant le rouleau compresseur des forces armées.
Il encourage ceux qui détiennent encore illégalement les armes à brousse à suivre leur exemple et les rassure qu'ils ne seront pas inquiétés. Bunia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
La présence de certains enfants non scolarisés victimes des conflits armés à travers les rues de Bunia constitue un grand danger pour le chef-lieu de la province de l'Ituri. Cette alerte a été lancée le lundi par le comité provincial des enfants de l'Ituri à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin. Pour le porte-parole de cette structure d'encadrement et de promotion des droits des enfants, il est temps que le gouvernement agisse en assumant ses responsabilités vis-à-vis de l'encadrement de ses enfants, conformément à la loi portant protection de l'enfant et à la convention relative aux droits de l'enfant. Josué Mbusso.
La situation que je vous décris, mesdames et messieurs, dure maintenant depuis plus de 5 ans. Notre prospérité et notre sécurité sont plus que jamais menacées. Ces enfants grandissants, sans éducation ni encadrement, violents et méprisés, constituent une bombe à retardement pour l'Ituri. L'Ituri qui est une province qui a assez souffert à mon avis. Ni tuteurs pour s'occuper d'eux, ils sont obligés de mendier et de s'y plier à tout passant en quémandant la somme de 100 francs pour pouvoir manger et survivre. Ces enfants représentent premièrement un danger pour eux-mêmes, car les enfants en situation de rue sont exposés à plusieurs formes de dangers qui impactent sur leur santé mentale et sexuelle. La société itourienne court le risque de replonger dans un cycle sans fin de violence et de meurtre comme il a été autrefois à Kinshasa. C'est pourquoi je lance un message, une demande au gouvernement pour une action immédiate afin de remédier à ce problème qui dure depuis beaucoup trop longtemps, à mon avis.
À cette occasion, le comité du Conseil provincial des enfants de l'Ituri, les différents partenaires, dont l'ONG britannique Save the Children, ainsi que des responsables étatiques œuvrant dans ce secteur, ont évalué l'impact des efforts fournis, ainsi que les retombées des fonds alloués chaque année dans la mise en œuvre des projets pour la promotion des droits des enfants. Au lendemain de la béatification du Congolais Floribert Buonatri à Rome en Italie, l'université de Goma se dit fière de son ancien étudiant Floribert Buonatri Bin Kositi. Le nouveau bienheureux Congolais a en effet étudié pendant 5 ans au sein de la faculté de droit de cette université. Pour le professeur Augustin Mouhessi, enseignant les sciences politiques à l'université de Goma, cette béatification est un message d'encouragement fort. Elle incite cette institution universitaire à poursuivre sa mission de former des hommes et des femmes résolument engagés à respecter les valeurs d'honnêteté et d'intégrité, aussi bien dans la sphère publique que privée. Selon lui, le bienheureux Buonatri incarne désormais un modèle inspirant pour tous ceux qui luttent contre les antivaleurs. On écoute le professeur Augustin Mouhessi dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
La béatification de M. Buonatri, un garçon de Goma, qui a étudié à l'université de Goma, c'est un message d'espoir. Puisque lorsqu'on regarde les scandales financiers les scandales liés au détournement des deniers publics, on a comme l'impression que on peut être tenté d'être découragé à se disant tout est pourri. Mais avec Bwanachui, c'est vraiment un message d'encouragement qui montre que la RDC peut redécoller et que malgré les défis, qu'il est possible justement de défier les mâles et mettre les valeurs comme boussole de la gouvernance. Bravo à la RDC qui a produit un modèle dans un contexte difficile. Bravo de manière particulière à la ville de Goma. Bravo à l'université de Goma qui a formé justement Floribert Bwanachui. Et bravo à la famille.
Au Maniema, la Fondation Hirondelle forme certains journalistes sur le journalisme sensible à la crise sécuritaire, humanitaire et à la vérification des faits. Cette formation de 4 jours entre dans le cadre du projet Accès à des informations de haute qualité, utiles et précises sur la situation humanitaire et sécuritaire en RDC. Elle vise le renforcement des capacités des participants afin de lutter contre la désinformation et les discours de haine pour permettre à la population du Maniema d'avoir un accès à une information fiable et vérifiée. On écoute à ce sujet Dangès Louila, journaliste analyste de la désinformation au sein de la Fondation Hirondelle. Il est dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Le constat pour arriver à cette formation, c'est qu'on s'est dit que les journalistes, et surtout de cette partie du pays, la grande partie est du pays en général, qui subit depuis plusieurs années les affres de la guerre. Et comme on le sait, qui dit guerre dit forcément une crise multiforme, et notamment une crise sécuritaire. Et dans cette crise sécuritaire, les journalistes ne sont pas toujours à l'aise dans l'exercice de leur métier. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut faire pour couvrir l'information en ces temps difficiles. Au-delà de ça, on sait aussi que les temps des crises sont des temps propices à la désinformation. Voilà pourquoi on a voulu bien combiner ces deux matières, permettre aux journalistes ou à leur doter des techniques nécessaires pour couvrir efficacement et de manière efficiente l'information en temps des crises, mais aussi les doter des outils et des techniques de vérification des faits, puisque aujourd'hui on ne peut pas être professionnel des médias sans comprendre l'industrie de la désinformation, mais aussi se faire soi-même acteur de la lutte contre les fausses informations qui circulent en ligne, mais aussi hors ligne, c'est-à-dire au sein de nos communautés.
Et puis, notez que 2 nouvelles publications parues aux éditions Le Pangolin ont été présentées hier lors d'une cérémonie organisée à la bibliothèque de la Wallonie, Bruxelles Internationale, à Kinshasa. Il s'agit respectivement de « Promotion », un livre de 135 pages, et de « Désagrégation et ensauvagement », un ouvrage de 118 pages. L'auteur Honoré Mbende Wambenga est inspecteur général adjoint à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il explique sa démarche littéraire au micro de Jean-Marc Matwaki.
Je crie pour rappeler l'existant et le pratiquant dans la société. On observe certaines pratiques, parfois qui n'honorent pas. Touché par ces pratiques, j'ai été encouragé par moi-même, n'est-ce pas, à pouvoir écrire ces 2 romans, La Promotion, qui est suivi de Désagrégation et Ensauvagement. Le titre l'indique, La Promotion, on croirait que c'est pour l'élévation. C'est vrai que tous, chacun aspire un jour à monter, à avoir un grade supérieur, etc. Mais il s'agit ici d'une sorte de dénonciation de certaines pratiques sociales, hideuses, hein, qu'on observe dans la société, de marchandage de promotion. À prix d'or, il y a des hommes, des femmes, des arnaqueurs qui circulent dans la société, qui vont de bureau en bureau, de rue en rue, n'est-ce pas, pour solliciter, proposer aux gens, n'est-ce pas, des promotions de postes d'emploi. Bon, il y en a bien sûr des enveloppes assez salées. Il s'agit encore de cette désagrégation. La société est tellement désagrégée que toujours la même mauvaise pratique. Quelqu'un de sérieux, un homme bon, etc., honnête, mais qui est victime de la barbarie sociale et se retrouve en prison, il revient, il cherche à se débrouiller. Alors finalement, il a craqué, il est devenu sauvage. D'où des agrégations.
Actualité internationale.
Au Kenya, la capitale Nairobi a été secouée hier par des affrontements entre des manifestants, des forces de l'ordre et des groupes de civils armés. Les manifestants s'étaient rassemblés pour réclamer justice pour Albert Ojwang, un enseignant décédé début juin alors qu'il était en détention. Mais la situation a rapidement dégénéré. Plusieurs personnes ont été blessées.
L'invité.
Le mouvement citoyen éclairé MCE sensibilise les Congolais, principalement les jeunes, au changement de mentalité et à l'éveil patriotique afin de construire la paix et le développement du pays. À travers sa campagne dénommée Campus Tour, lancée depuis plusieurs mois, le MCE passe dans les universités pour conscientiser les étudiants à s'écarter des antivaleurs et à ne pas se laisser manipuler par les discours politiques. Après avoir parcouru plusieurs universités de Kinshasa, le mouvement prévoit de se rendre dans d'autres ville du pays. Le président du mouvement citoyen éclairé, Ugbo Lendombo, nous parle de cette campagne dans cet entretien avec Grâce Hamzati.
Ugbo Lé, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a motivé à mener cette campagne? Qu'est-ce que vous avez constaté dans la société pour mener cette campagne sur le changement de mentalité élevée patriotique?
Alors, de manière générale, quand on regarde même l'être humain, vous verrez que la différence entre deux êtres humains réside souvent au niveau de la mentalité, au niveau de ce que vous vous racontez comme histoire dans votre propre tête. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a eu un constat qui a été fait de se rendre compte qu'il y a une inversion de valeur presque de notre société. Il y a une grosse perte aussi d'identité. Alors, il est important d'éveiller ou de réveiller cette mentalité parce que je pense qu'en tant que Congolais, nous sommes tous nés avec cet ADN de l'amour de notre pays, cet ADN de vouloir transformer la RDC, mais qui, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, a été peut-être mise au froid. On s'est dit, il est important de commencer par le fondement, la fondation, la base, qui est la mentalité, la structure mentale. Une personne qui a une structure mentale stable aura des actions stables. En RDC, quand je dis les antivaleurs, j'ai même pas besoin de les nommer. Aujourd'hui, les jeunes, quand vous regardez leur utilisation des réseaux sociaux, ceux qui ont tendance à vouloir dire des choses qui construisent la société, qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de la société, ils sont très peu entendus. Mais ceux qui sont dans des, on va dire vraiment des antivaleurs, dans la bêtise, dans les insultes, dans des insanités, dans le manque de respect, ben ce sont ceux-là presque que la société encense. Et donc c'est ça vraiment le vrai problème quand je parle d'inversion de valeur.
Et vous avez circulé dans plusieurs universités de la ville de Kinshasa. Pourquoi avoir ciblé seulement les universités alors que le changement de mentalité concerne toute la nation, y compris dans la classe politique?
Le chantier, il est très grand. On n'a pas ciblé seulement les universités. On a commencé en premier dans les universités parce que je pense que c'est un message qui devait d'abord atteindre les universitaires qui sont les futurs dirigeants. Que c'est eux qui ont la vision, cette vision de demain. Quand je dis demain, demain c'est maintenant. Le pays sera dirigé par vous et il faut que vous puissiez avoir une mentalité qui vous permette justement de vous aiguiser pour être utile à votre pays à travers justement votre structure mentale. Après, maintenant, nous allons descendre dans d'autres couches de la population pour les emmener justement progressivement à comprendre que le changement, ça ne sera pas de force, mais que ça vienne, comme on dit, la maïotique, que la vérité sorte d'eux-mêmes, qu'ils accouchent la vérité et qu'ils aillent progressivement vers cette démarche-là de se dire que plus on éveille notre mentalité, plus on accède aux connaissances, plus on a cet amour patriotique, plus, mieux sera notre pays.
Et après Kinshasa, vous allez vous rendre dans la province du Congo central, précisément à Matadi.
Exactement. Donc après Kinshasa, nous sommes dans la province du Congo central à Matadi. Nous serons là-bas le jeudi 26 juin à partir de 10h dans la salle Béni. Les étudiants là-bas, déjà, ils sont enthousiastes, ils nous attendent. Il y a toute une campagne qui est déjà en train d'être faite. On commence par le Congo central, après on ira à Lubumbashi, Kisangani. Que Dieu nous aide, que le pays puisse être complètement pacifié pour qu'on puisse accéder à Goma, Bukavu, Butembo, partout. Vraiment, le Grand Kasaï, Équateur, Bandundu, pour que vraiment qu'on soit en mesure de délivrer ce message qui est primordial, qui est capital pour le développement de notre pays.
Alors, quel est votre message à toute la jeunesse de la RDC qui vous écoute sur les antennes des radios Capi par rapport à la mentalité ou au comportement que ces jeunes doivent adopter, surtout pendant cette période, le pays traverse une crise, notamment sécuritaire.
En effet, je demande à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler par des discours, des fois même souvent politiques, qui ne visent pas leurs intérêts, mais les intérêts individuels. Que la jeunesse congolaise continue à s'armer de connaissances, parce que la connaissance est une arme. Que personne ne vous dise que c'est impossible. Je dis toujours que ceux qui pensent que c'est impossible laissent la place à ceux qui pensent que c'est possible. Je donne un message de paix à l'ensemble de la population congolaise, à l'ensemble de la jeunesse congolaise, même qui nous écoutent des fois, même peut-être maintenant dans des zones d'occupation. J'appelle cette jeunesse-là à la résilience, à l'amour patriotique. J'appelle cette jeunesse-là à se dire que c'est nous qui allons construire la République démocratique du Congo et nous ne devons pas nous sacrifier, nous devons apprendre pour qu'on puisse construire un Congo plus résilient, un Congo plus fort, un Congo où c'est encore possible de rêver parce que c'est possible, c'est possible, c'est possible.
Igbole, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Alain Goy, le tout sous la coordination et la supervision de Pélé Kipela Mondo.